Bonsoir à tous. Bon, les pasteurs sont pas là, donc c'est moi qui vais vous apporter la parole de Dieu. Et bon, ce qui compte, c'est pas vraiment celui qui prêche, c'est surtout que ça soit la parole de Dieu. Il nous a laissé sa parole, et comme on l'a chanté, elle est la vérité. Et je prie, et nous avons prié que le Saint-Esprit puisse l'appliquer à notre cœur, et que cette parole soit vraiment esprit et vie pour nous ce soir. Et je vous invite à l'ouvrir dans l'Évangile de Luc au chapitre 10. On va faire la lecture principale, l'Évangile de Luc au chapitre 10 et à partir du verset 25. Voici ce que nous lisons. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit: « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit: « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va, et toi, fais de même. Amen. Amen. Donc, dans ce texte qu'on a lu, on voit un échange entre le Seigneur Jésus et un docteur de la loi, c'est-à-dire une personne qui connaissait très bien l'Ancien Testament, qui connaissait très bien la loi juive. Et il va venir poser une question au Seigneur. Ben, on va dire, c'est une bonne question. Il va dire: maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ben, ça, c'est une bonne question. Mais ben bon, par contre, il la posait pas pour de bons motifs. Il nous est dit que c'était pour tester Jésus, pour l'éprouver. Et au final, Jésus, comme bon juif, va répondre à la question par une autre question. Et il va lui dire: alors, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Puisque toi, tu es spécialiste de la loi. Et donc, le pharisien va donner la bonne réponse. Il va dire que le plus important dans la loi, que pour avoir la vie éternelle, il faut aimer le Seigneur Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, et le prochain comme toi-même. Et c'est la bonne réponse. D'ailleurs, on a un autre texte où c'est le pharisien qui posera une question à Jésus et qui lui dira: c'est quoi les 2 plus grands commandements? Et Jésus va faire exactement la même réponse. Donc, c'était la bonne réponse. Alors, Jésus va lui dire: eh ben, c'est bien. Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Et comme ce docteur de la loi, il n'avait pas posé la question pour vraiment savoir, avoir la réponse, mais plus pour éprouver Jésus, il va lui dire, et qui est mon prochain? Et à ce moment-là, Jésus va lui donner cette parabole. La parabole qu'on appelle celle du bon samaritain. Et dedans, dans cette parabole, on voit 4 personnes. On voit celui qui descend à Jéricho et qui se fait tabasser. On voit un sacrificateur, un lévite et un samaritain. Et on voit qu'au final, dans cette histoire, les 2 personnes, c'est-à-dire le sacrificateur et le lévite, qui ont vu la personne qui était blessée, elles sont passées outre. Et vous savez, ces 2 personnes-là, elles pouvaient répondre à la question de Jésus. Si on leur avait posé la question: et c'est quoi le plus grand commandement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Probablement, ils auraient répondu comme le docteur de la loi. Mais eux, ils sont passés outre. Et le samaritain, lui, qui en fait n'avait pas vraiment la connaissance de la loi complète, ou c'était pas parfait la manière dont il connaissait les choses de Dieu, lui, il l'a mis en pratique. Et au final, cette histoire, cette parabole, pourquoi elle a été donnée? Elle a été donnée pour montrer que la connaissance ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est mettre en pratique. Parce que c'est bien d'avoir de la connaissance, mais surtout, ce qui est important, c'est de la mettre en pratique. C'est bien de se dire qu'on est chrétien, mais est-ce qu'on l'est vraiment? Est-ce qu'on fait vraiment ce qu'il faut faire? L'apôtre Paul, il dira aux Corinthiens: la connaissance enfle, mais l'amour édifie. L'amour édifie. Il dira plus loin dans la même épître aux Corinthiens: si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ça fait du bruit, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. L'amour. Par conséquent, pour nous, et le but de cette parabole, c'était de montrer aux pharisiens qu'il ne faut pas juste savoir, il ne faut pas juste avoir la connaissance, mais il faut mettre en pratique la parole. Voilà. Ça, c'était l'introduction pour placer le contexte. Maintenant, j'aimerais qu'on parle plus en détail de cette parabole. Parce que vous savez, ce que Jésus a enseigné, Jésus l'a mis en pratique. Et dans cette parabole, on va retrouver des principes que l'on peut s'appliquer à nous et que l'on peut appliquer à l'œuvre de Jésus. Ce que Jésus a enseigné, Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette parabole ? Verset 30. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Et dans cette parabole, on voit un homme qui a été blessé, un homme qui souffre, un homme qui a été laissé à demi-mort. On voit qu'il y a trois choses. Les brigands le dépouillèrent, le chargèrent de coups et ils s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Ils l'ont abandonné. Et ça, ça peut être aussi ce que l'on peut vivre dans la vie. Être dépouillé. Est-ce que l'on peut perdre ce que l'on a? On peut perdre nos biens, c'est vrai, c'est sûr. Mais même dans notre cœur, est-ce qu'on ne peut pas perdre la paix, perdre la joie, perdre notre honneur, notre gloire, perdre toutes sortes de choses? Ensuite, ils l'ont chargé de coups. Et ça, c'est écrit chargé, c'est-à-dire qu'ils n'en ont pas mis qu'un, ils en ont mis plusieurs. Chargé de coups. Est-ce que ça peut arriver qu'on nous fasse du mal? Qu'on nous donne des coups? Bon, physiquement, oui. Mais même moralement, intérieurement, est-ce que ça peut arriver qu'on soit blessé, qu'on n'ait pas pris juste un coup, mais qu'on en ait pris plein, qu'on soit chargé de coups? Est-ce que ça peut arriver que l'on soit abandonné, laissé tout seul? Eh oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et il y a beaucoup de personnes dans ce monde, et même peut-être parmi nous, qui sont dans cet état-là. Ils sont dépouillés, blessés, chargés de coups, et abandonnés. Et dans ce texte, on voit que, bon, bien sûr, c'est une parabole, donc c'est une histoire qui a été donnée pour illustrer des vérités. Dans ce texte, on voit que c'est les brigands qui ont fait ça, des brigands, des hommes méchants. Et j'aimerais vous lire un texte qui se trouve dans le psaume 38, qui je vais vous le lire pour vous. C'est David qui parlera après avoir péché. Il dira ceci. « Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. » Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tous les jours, je marche dans la tristesse. Verset 9. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Et on voit que ce qui peut causer ça, ce qui peut amener à cet état d'être dépouillé, chargé de coups, abandonné à demi-mort, la Bible appelle le péché. Le péché. Quand on pêche, quand on fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, on nuit à notre âme. On la dépouille de ce qui est bon. On est blessé et aussi on s'isole. À un moment dans la Bible, Dieu dira « Mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour bénir. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Traduit autrement, c'est votre péché qui vous isole de Dieu. Le péché. Dans Romains 6 au chapitre 23, il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort. Alors ça, c'est le diagnostic. Et peut-être que on peut être dans cet état-là, c'est-à-dire à demi-mort. On n'a plus la force d'avancer, plus d'espoir, plus de force, on est sur le côté, allongé par terre. Et qu'est-ce qu'on a besoin quand on est dans ces cas-là? Eh bien, on a besoin d'un sauveur. On a besoin de quelqu'un qui vient pour nous aider. Cet homme, il ne pouvait pas s'en sortir tout seul. On voit que les religieux sont passés. Ceux qui disaient avoir la bonne religion, et ils ne l'ont pas aidé. Ils l'ont laissé tout seul quand même. Mais on voit qu'il y a eu un Samaritain qui est venu à son aide. Et vous savez, pour nous, ce Samaritain, c'est l'image de Jésus. C'est Jésus qui est venu pour nous aider. On voit au verset 33 Il écrit ceci. Un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit, il s'approcha. Et on voit que dans ce texte, le Samaritain, au final, il a pris le même chemin que cet homme qui était blessé. Et ça, ça nous parle de Jésus, qui a pris le même chemin que nous, qui est venu jusqu'à nous. La Bible, elle nous dit dans l'Épître aux Philippiens que Jésus, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Ça veut dire que ça n'a pas été le plus important pour lui d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Ça veut dire que Jésus, qui est Dieu, s'est dépouillé de sa gloire, n'a pas trouvé que c'était, nous a vus dans notre misère, et il n'a pas tenu sa gloire comme une proie arrachée, comme quelque chose qu'il ne voulait pas lâcher, mais il s'en est dépouillé pour venir jusqu'à nous. Et comme ce Samaritain a été venu au contact de cet homme, Jésus est venu à notre contact. Il y a aussi une autre image, il nous est dit que ce chemin, c'est celui qui allait de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem à Jéricho. Alors Jérusalem, pour information, j'ai cherché, c'est à 800 mètres au-dessus de la mer. Et c'était la ville qui représentait au final, en faisant raccourci, le ciel, quoi. Parce qu'il y avait le temple qui était là-bas. C'est là où il y avait la demeure de Dieu. Et Jéricho, c'est à moins 233 mètres en dessous de la mer. Et en fait, c'est la ville la plus basse au monde. Il n'y a pas plus bas que Jéricho. Voilà. Merci Wikipédia. Et ça, c'est une image. C'est que Jésus, il a quitté son ciel de gloire. Il a quitté la gloire et il est venu. Il est descendu et il a pris le même chemin que nous. Il est descendu au plus bas pour venir nous chercher. Qu'est-ce qu'on voit ensuite? Jésus a eu... Il nous est dit que, ayant vu cet homme, il fut ému de compassion. Et vous savez, les autres, le sacrificateur et le lévite, eux aussi ils l'avaient vu. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passe à outre. Il a vu la souffrance, mais il est passé outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passe à outre. Eh oui, ils l'ont abandonné. Ils ont vu la souffrance, ils ont vu un homme à demi mort, mais ils sont passés. Ils ont rien fait. Mais pour ce Samaritain, c'est différent. C'est écrit « ému de compassion ». Et vous savez, le Seigneur, il a de la compassion. Je ne sais pas quelle image vous avez de Dieu, si vous avez l'image d'un Dieu qui est dur, d'un Dieu qui est lointain, qui est froid, mais là on voit qu'il a été ému de compassion. Une autre traduction dit « en le voyant, il fut pris de pitié ». Ça veut dire que Dieu n'est pas insensible à notre souffrance. Et que si on souffre, le Seigneur, il va pas passer outre quand il le voit. Il va pas passer outre. On voit souvent dans la Bible que Jésus fut ému de compassion avant de guérir un malade. Quand il voyait des personnes dans la difficulté, il était ému de compassion. Il n'est pas indifférent face à notre souffrance. Et ce soir, il est capable d'agir. Vous savez, comme on l'a dit, le Seigneur, il est là par son esprit. Il est là, à notre contact, il nous voit et il sait s'il y a de la souffrance dans notre cœur, il sait s'il y a, de la douleur. Et il est rempli de compassion. Et lui, ce qu'il veut faire, c'est pas passer outre, mais c'est agir. Agir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ce Samaritain? Verset 34. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. De l'huile et du vin. Bon, c'est un peu bizarre, hein. C'était les médicaments de l'époque. Ils n'avaient pas le Doliprane à l'époque, ils n'avaient pas les prêts antiseptiques. Ils avaient de l'huile et du vin. Pourquoi? L'huile, c'est pour calmer la souffrance. Ça permettait d'apaiser. Et le vin, bah dans le vin, il y a de l'alcool. Ça permet de désinfecter, au final. Le vin, ça enlève le mal. Et l'huile, ça calme la souffrance. Ça calme la souffrance. Donc je vous rappelle que cette parabole est donnée pour illustrer des principes. Donc ça veut dire, au final, que ce Samaritain, il avait de quoi soigner celui qui était malade, celui qui était tombé à terre. Ça veut dire que Jésus, pour nous, il a aussi de quoi nous soigner, il a de quoi calmer la douleur, et il a de quoi enlever ce qui fait mal. Je rappelle, c'est le péché. Alors, je vais vous poser une question. Comment est-ce que le Seigneur va calmer notre souffrance et enlever ce qui cause notre mal? Comment est-ce qu'il va faire ça? Parce qu'il est là, il est présent par son esprit, il voit la souffrance, il est ému de compassion, et il veut enlever la douleur, enlever le péché. Comment va-t-il faire? Ben là encore, on a une image. Comment est-ce qu'on fait de l'huile? C'est en écrasant des olives, en pressant des olives. Comment est-ce qu'on fait du vin? C'est en pressant du raisin. Comment est-ce que le Seigneur va nous sauver et donner nos remèdes? Mais c'est en brisant son Fils pour nous. C'est ça l'image. C'est que tout comme pour faire de l'huile et pour faire du vin, il faut briser le raisin, briser les olives, pour nous sauver, pour nous délivrer du péché, pour nous délivrer de la douleur, Dieu a pressé, écrasé son Fils. Je vais vous lire quelques versets de Ésaïe 53. Ça nous parle justement des souffrances de Christ, de ce qu'il a fait pour nous. On peut lire ceci, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. » Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple? Un peu plus loin, au verset 10, il écrit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Un peu plus loin, à la fin, il nous est dit « Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et il a intercédé pour les coupables. » Je ne sais pas si vous avez fait attention aux verbes qui ont été utilisés « blessé »,« brisé ». Meurtri, maltraité, opprimé, retranché, frappé, brisé. Et voilà. Et il écrit que c'est l'Éternel qui l'a brisé par la souffrance. Vous savez, quand le Seigneur a été brisé, quand il a vécu ces moments qui étaient difficiles, c'était notre péché, notre colère, c'est lui qui a été brisé pour que nous puissions être guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il y a un texte où Jésus, après avoir institué la Sainte Cène, il va aller sur le mont des Oliviers. Et il va aller plus particulièrement dans un lieu qui va s'appeler Gethsémané. Gethsémané. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Gethsémané? Ça veut dire pressoir à huile. Pressoir à huile. Voilà ce qui est écrit dans Marc au chapitre 14, verset 32. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Et on a d'autres précisions dans l'évangile de Luc. Il est dit, « Étant en agonie, il priait plus instamment. » Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Je ne sais pas si vous imaginez la pression, le brisement que Jésus était en train de vivre à ce moment-là. Ce qu'il a vécu là, les grumeaux de sang, ça s'appelle une hématidrose. Ça, c'est un phénomène, ça existe. C'est quand les gens sont dans une telle angoisse, que même des grumeaux de sang, la sueur devient du sang, les vaisseaux éclatent. Et à ce moment-là, Jésus était brisé pour nos péchés, afin que nous puissions être guéris. Et au final, c'est vrai qu'il a quitté son trône de gloire, il s'est fait homme, mais il a accepté aussi de souffrir pour que nous puissions être guéris. Et bien plus, après il est allé jusqu'à la croix, jusqu'à une mort qui était atroce, tout simplement, pour que nous puissions être guéris et délivrés de notre péché. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, comme cet homme qui était au bord du chemin, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il soit sauvé. » C'est pour cela que Dieu a donné son Fils unique. Et là, on arrive à une limite par rapport à la parabole. Parce qu'on voit que dans cette parabole, l'homme, au final, il a absolument rien fait. Il s'est juste laissé porter, soigné par le bon samaritain. Mais si on lit la suite de Jean 3,16, au verset 17, ça nous dit « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Et là, on voit qu'on a notre responsabilité dans ce processus. C'est que le Père a donné son Fils, il nous a donné le moyen d'être soulagé de la douleur du péché, d'être purifié de notre péché, mais par contre, il nous demande de venir à lui et d'accepter qu'il ôte ce péché. Ça s'appelle la repentance. C'est-à-dire que si on veut être délivré du péché, il faut le vouloir. On ne peut pas être guéri si on ne veut pas en être guéri. C'est comme s'il y avait un patient qui allait voir un chirurgien, il a, je sais pas, une tumeur à la jambe, il faut l'enlever. Et puis là, il fait « Ah non, pas de bistouri. Surtout pas. » C'est comme si, au final, le chirurgien allait lui faire, c'est vrai, un petit peu mal. Et ouais, le vin, quand ça désinfecte, ça pique. Et quand on doit se dépouiller du péché, renoncer à son ancienne vie, à sa vieille nature, au péché, bah oui, c'est vrai que ça peut coûter. Mais c'est pour notre bien. Tout comme un chirurgien, il peut faire un peu mal, il peut ouvrir une blessure, mais pour notre bien. Eh bien, c'est pareil. Si le Seigneur, il nous demande de renoncer au péché, c'est pour notre bien. C'est parce qu'il veut nous faire du bien. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Quiconque croit. Et voilà la solution. Est-ce que l'on veut être délivré de ce mal qui nous détruit? Est-ce que l'on veut croire dans le sacrifice de Jésus, dans ce que Dieu a fait pour nous? Et si vous l'acceptez, alors le Seigneur mettra son huile sur vos cœurs, sur vos blessures, pour enlever la douleur. Il mettra son vin pour que justement ce péché soit ôté. J'aimerais faire aussi une petite parenthèse, parce que là j'ai parlé des souffrances qui sont dues au péché. Mais dans la vie, et quand on est chrétien, on peut aussi avoir des souffrances, mais qui sont pas à cause du péché. Ça peut être des souffrances, même des fois, justement, parce qu'on veut être juste. Des fois, eh bien, parce qu'on veut être juste, on peut vivre la solitude ou l'abandon. Des fois, on peut souffrir qu'on ait des proches qui ne connaissent pas Dieu. Des fois, on peut vivre des trahisons, on peut passer par le deuil, toutes sortes de douleurs, la maladie aussi, qui nous font mal. Mais voilà ce qui nous est écrit. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1 et au verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet, de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Et là, on a une promesse de Dieu. Parce que là, c'est pas parler des afflictions à cause du péché. Ça, c'est parler des afflictions qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours. Et là, Dieu, il est dit qu'il peut nous consoler de toutes nos afflictions. Toutes. Il n'y a pas une qui laisse comme ça, qui nous fait mal. Il peut nous consoler de toutes. Pourquoi? Afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Et le principe de l'olive et du raisin, ça peut marcher aussi pour le chrétien. C'est-à-dire que des fois, on peut être brisé, mais pour faire du bien aux autres. Parce qu'il est écrit qu'il nous console dans toute affliction pour que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Parce qu'avant, on peut pas au final. Tant qu'on n'a pas vécu certaines choses, tant qu'on n'a pas des fois souffert et été consolé, on ne peut pas aider ceux qui passent par les mêmes choses. Et vous savez que ça, un chrétien, ça peut aussi le refuser. À un moment dans la Bible, c'est écrit que Rachel a refusé d'être consolé. Parce qu'il faut l'accepter aussi, la consolation du Seigneur. Il faut l'accepter. Quand on n'est pas consolé, quand on a souffert, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on devient amer, on devient blessant. Et au final, les blessures qu'on a font qu'on blesse les autres. Mais quand on a été consolé, quand on a été blessé, c'est vrai, mais qu'on a reçu ce baume que le Seigneur peut donner, quand on a reçu sa consolation, eh bien, on peut aller ensuite consoler ceux qui passent par là. Et on a une bénédiction pour les autres. Je ferme la parenthèse. Enfin, dans la parabole du Samaritain, on voit qu'après avoir soigné cet homme, il le prit sur sa monture et le conduisit dans une hôtellerie. Donc après l'avoir soigné, après, on va dire, avoir pardonné le péché, avoir ôté la culpabilité, ce qui faisait mal, il va l'amener, cet homme-là, dans une hôtellerie où il va prendre soin de lui. Alors c'est quoi cette hôtellerie? Je pense que c'est l'église, l'hôtellerie. C'est-à-dire que Dieu, une fois qu'il a... Il s'écrit que dans les Actes des Apôtres, qu'il ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés, qu'il ajoutait à l'église. Et vous savez que le Seigneur a pourvu aussi ici-bas des églises, des endroits où on invoque son nom, où on peut prêcher la parole, où on peut prier les uns pour les autres. Pourquoi? Mais pour justement, une hôtellerie, c'est un endroit, un lieu ou un refuge. Et vous savez, si quand le Seigneur a fait ça, quand il nous a soignés, quand il nous a aidés, après il nous amène dans une église. Pour justement, il écrit, et il prit soin de lui. Parce que dans l'église, le Seigneur, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il prend soin de nous. Et là, on a la vocation de l'église. C'est écrit, le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte, et dit, aie soin de lui. Est-ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Et on voit que dans cette hôtellerie, ce que ce Samaritain va demander, c'est de prendre soin de ceux qui viennent. Et pour nous chrétiens, c'est notre vocation, de prendre soin les uns des autres. Et on voit qu'au final, il va pourvoir aux besoins. Il va donner 2 deniers. 2 deniers. Ça veut dire que le Seigneur, si on veut accomplir cette mission, de prendre soin les uns des autres, il nous donnera ce dont on a besoin. Amen. Enfin, je finis avec ce verset qui nous, dans les Philippiens. Juste avant de parler de Dieu qui s'est dépouillé, le verset d'avant, il nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Et vous savez, pour nous qui sommes chrétiens, pour être efficaces, on a besoin d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On ne peut pas venir comme ça, prier pour les gens, dire « Amen », s'il n'y a pas cette compassion dans nos cœurs, s'il n'y a pas ces sentiments qui ont poussé ce Samaritain à agir envers l'homme qui était blessé, mais qu'est-ce qui va se passer? On va passer outre. Parce qu'au final, on n'aura pas ces sentiments de compassion. Et ce qu'il faut demander au Seigneur, c'est qu'il puisse mettre dans nos cœurs ces sentiments qui étaient en Jésus et qui l'ont poussé à agir. Parce que si nous voulons agir et être efficaces, nous avons besoin de ces sentiments. Et quand Jésus était ému de compassion, il pouvait dire et prier avec fermeté, avec assurance pour les malades. Et les malades étaient guéris. Si on n'aime pas les gens, qu'est-ce qui va faire qu'on va prier avec passion? Finalement, on n'en a rien à faire si on n'a pas cette passion. On va passer outre, même si on y mettra une certaine enveloppe, une certaine apparence, mais on va passer outre. Mais si on a une compassion dans nos cœurs, si on a cette consolation, cette miséricorde, eh bien alors on pourra être de bons témoins et aider ceux qui souffrent. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Elle est la vérité. Elle fait du bien à nos cœurs. Nous te remercions Seigneur et nous te prions pour que ces paroles soient esprit et vie maintenant Seigneur. Tu nous vois tous et tu connais l'état de nos cœurs. Tu connais l'état de nos vies, tu sais par où nous sommes passés, Seigneur. Mais nous savons une chose, c'est que tu es miséricordieux. Et ce que tu veux, c'est consoler. C'est délivrer du péché. C'est pardonner. Et c'est donner une vie abondante. Seigneur, de tout notre cœur, nous te demandons que tu puisses bénir ce soir tous ceux qui auront reçu cette parole et qu'elle puisse porter du fruit dans les cœurs. Que vraiment, il y ait cette consolation. Que s'il y a des blessures profondes, qu'elle puisse être guérie, qu'elle puisse être cicatrisée, Seigneur. Et que, au travers de cette œuvre, tu puisses faire de nous une bénédiction pour nos proches, pour ceux qui sont autour de nous, pour ton Église, Seigneur. Merci de tout ce que tu as fait et que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.